Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Décidément invincible dans un contexte économique morose, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réussi le tour de force de remporter le double scrutin législatif et présidentiel qu'il avait convoqué avec 16 mois d'avance. Alors que les partis d'opposition dénoncent la fraude, le chef de l'État, qui est depuis 15 ans au pouvoir, a salué la victoire de la démocratie. En réalité, cette élection marque le début d'un régime hyper présidentiel et la fin programmée des contre-pouvoirs à Istanbul, à Nandlawar.
Adieu, système parlementaire, place à l'hyper-présidence. Le régime politique qui entre officiellement en vigueur en Turquie à la faveur de la victoire de Recep Tayyip Erdogan s'appelle officiellement système du gouvernement de la présidence du peuple. Il n'a pas grand-chose à voir avec le modèle américain ou le régime semi-présidentiel à la française. Derrière son nom alambiqué se cache un régime sans équivalent ailleurs, puisqu'il a été pensé et écrit par et pour un seul homme, un seul président, Recep Tayyip Erdogan lui-même. Le jour où le nouveau parlement entrera en fonction et où le chef d'État prêtera une nouvelle fois serment, sans doute le 2 juillet selon les médias turcs, s'en sera désormais fini du poste de Premier ministre. C'est désormais le président qui décide seul de presque tout, à commencer par son gouvernement sur lequel les députés élus dimanche n'auront aucun contrôle. La séparation des pouvoirs disparaît. Parlement et haute juridiction, principaux contrepoids au pouvoir présidentiel, passent sous le contrôle effectif de Recep Tayyip Erdogan. Pour les citoyens, cela veut dire une justice encore plus expéditive, des décrets et des lois encore plus répressifs contre lesquels l'opposition n'aura plus de marge de manœuvre, et un contrôle sur la société, des médias aux associations encore plus resserré. Certains souligneront, et ils n'auront pas tort, que le régime n'était plus vraiment parlementaire depuis longtemps. Mais l'importance de ce changement n'est pas que symbolique, notamment pour les partenaires internationaux de la Turquie, à commencer par l'Union européenne. Officiellement, le pays est toujours candidat à l'adhésion. Les États membres devront d'urgence trouver une position commune qui tienne compte de cette nouvelle donne, sans pour autant abandonner l'opposition turque à son sort, d'autant qu'elle fait désormais face à un Erdogan tout-puissant.
Avis de dépeuplement en Bosnie-Herzégovine, le pays se vide, les jeunes fuient le chômage et les crises et il semble que personne dans la classe politique ne cherche à les retenir. Désormais, les autorités et les entreprises allemandes qui ont besoin de main-d'œuvre viennent directement recruter sur place. Reportage à Tuzla, signé Laurent Gélin.
Pacha n'a que 25 ans, mais le jeune homme sait ce que l'exil veut dire. Après avoir travaillé sur des chantiers au noir en France, il s'apprête à partir pour l'Allemagne.
Je quitte le pays à cause de tout ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, mais surtout à cause du manque de travail. Je ne peux pas trouver d'emploi ici avec un salaire correct. Je ne peux rien prévoir pour moi, pour ma famille, pour mon enfant. Ce n'est pas possible de vivre de cette façon.
Pacha habite Tuzla, la grande ville industrielle de l'est de la Bosnie-Herzégovine, et travaille de temps en temps dans une station-service pour 300 euros par mois. Il fréquente aussi une école médicale privée pour devenir infirmier et prend des cours d'allemand. Un choix payant, une clinique de Düsseldorf lui a déjà promis un contrat de travail. 1900 euros les 6 premiers mois, 2500 euros ensuite. Alissa Kedic voit passer des jeunes comme Pacha tous les jours. Elle a fondé il y a quelques années une école de langue à Tuzla.
La plupart de nos étudiants financent eux-mêmes leurs cours, mais certains programmes sont aussi payés par le Goethe-Institut. Il faut passer un concours pour y accéder. La plupart des jeunes, quand ils terminent le lycée ou la faculté, ne voient pas leur avenir en Bosnie-Herzégovine. Ils cherchent à émigrer en Allemagne ou en Autriche.
Personne ne tient de statistiques de l'exode, ni les autorités de la ville, ni celles de l'État central. Mais Admir Rustanovic, qui travaille au bureau pour l'emploi du canton de Tuzla, constate une baisse du chômage. 84 000 personnes étaient sans emploi dans la région en 2017, contre 91 000 en 2016.
Il y a une baisse du chômage dans le canton, qui s'explique par des créations d'emplois, mais surtout par les départs en Slovénie et en Allemagne. C'est surtout le chômage des moins de 35 ans qui diminue, tandis qu'il augmente chez les plus de 50 ans, ce qui prouve bien que ce sont les jeunes qui s'en vont. Au niveau de l'État de Bosnie-Herzégovine, nous avons des accords signés avec l'Allemagne et la Slovénie qui permettent des migrations de travail légales.
L'ampleur de l'exode ne semble guère incommoder les dirigeants politiques du pays, bien au contraire. Celui-ci sert d'exutoire aux tensions sociales. Ceux qui partent sont autant de citoyens qui auraient pu exprimer leur colère. À l'étranger, ils risquent fort de ne pas voter, comme le souligne le démographe Adso Čavić.
D'un côté, je pense que les autorités ne savent pas quoi faire. De l'autre, elles ne veulent pas prendre la mesure du problème. Leur objectif est qu'une partie du mécontentement social se déverse en dehors des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Ces gens échappent à toutes les statistiques, ils cessent d'être un problème pour la Bosnie-Herzégovine tout en devenant de la main-d'œuvre très utile pour l'Allemagne.
Les médias de Bosnie-Herzégovine, de Croatie ou de Serbie annoncent régulièrement des sessions express de recrutement permettant d'obtenir une promesse d'embauche. Le 16 avril 2018, l'entreprise Cushion Actuel, présente dans toute l'Allemagne, est par exemple venue recruter 30 installateurs de cuisine à Tuzla.
Une partie des gens qui émigrent ont de trop faibles revenus et espèrent trouver de meilleurs salaires à l'étranger. Mais il y a aussi des gens qui ont de bons revenus, du moins à l'échelle de la Bosnie-Herzégovine. Des couples, par exemple, qui ont deux salaires, mais qui ne veulent pas vivre dans un environnement instable, dans un pays où 23 ans après la fin de la guerre, on parle toujours de la guerre. Ils ne veulent pas envisager leur avenir et celui de leur enfant dans un tel pays.
À Banja Luka, la capitale de la Republika Srpska, l'entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, les grandes avenues du centre paraissent toujours un peu désertes. À 27 ans, Stefan Blagic est le fondateur de Restart, l'une des associations citoyennes les plus dynamiques de la région. En octobre 2017, celle-ci avait invité les habitants de la ville à inscrire les noms de leurs proches partis à l'étranger sur un mur des lamentations éphémères.
Je voulais éveiller la conscience de notre communauté en Republika Srpska sur le problème des gens qui s'exilent. Malheureusement, nous avons réussi au-delà de nos attentes. En moins de 2 heures, le mur s'est recouvert de noms. Pour la première fois, les citoyens ont pu voir, écrit noir sur blanc, que l'exil était bel et bien notre problème numéro un et qu'il fallait trouver des solutions. Les gens préfèrent travailler dans un supermarché en Allemagne pour 1000 euros que pour 200 euros ici.
Bientôt, les électriciens et les plombiers vont venir à manquer, comme manquent déjà les médecins et les infirmiers. En Bosnie-Herzégovine, tout le monde se demande qui sera le dernier à éteindre la lumière avant de partir.
Les buskers, les musiciens de rue, font partie du paysage à Londres. La mairie les encourage et les soutient même, notamment à travers l'organisme Busking London. Et justement, les buskers de la capitale ont reçu un petit coup de pouce digital de la part des autorités. Ils peuvent désormais accepter les paiements sans contact. Reportage à Londres de Marie Billon.
Hey everybody, hope you're having a lovely day today. My name's Charlotte Campbell. I've got some cards you can take away with you if you want to find me online, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, that kind of thing.
Charlotte Campbell a 28 ans. Elle joue dans les rues de Londres depuis 6 ans. C'est son travail à temps plein. Même si les gens ne s'arrêtent pas toujours pour l'écouter, elle est contente de partager sa musique. Et depuis quelques semaines, elle a même un petit boîtier posé dans la housse ouverte de sa guitare qui permet aux passants pressés, appréciant son art, de lui donner un petit quelque chose.
J'ai vu mes revenus diminuer peu à peu depuis que les gens ont moins de monnaie sur eux. J'ai donc installé un écriteau pour dire que j'acceptais maintenant les paiements sans contact. Au début, les gens ne savaient pas trop quoi penser. Ils me demandaient si c'était une blague. Puis au fur et à mesure, ils ont commencé à l'utiliser. Le don est fixé à 2 livres sterling. C'est en moyenne ce qu'on me donne en monnaie.
We had nowhere to be.
Charlotte reprend sa guitare et rapidement, un jeune homme se plante devant elle. Il regarde son téléphone. Pendant plusieurs secondes, il a l'air tellement concentré qu'il semble en oublier l'artiste devant lui. Mais tout à coup, il s'avance vers la housse de guitare et pose son téléphone sur la borne de paiement.
Je viens juste d'utiliser mon portable pour payer la busqueuse en le plaçant devant la borne de paiement. C'est super. Par contre, je ne me sentirais pas de sortir ma carte de crédit. Quelqu'un pourrait me l'arracher des mains. Mon téléphone, lui, est sécurisé, donc ça ne m'inquiète pas.
Quelques secondes plus tard, une adolescente s'approche et dépose quelques pièces.
J'avais la monnaie, donc c'était plus simple comme ça. J'ai donné 3 livres. Je préfère choisir le montant moi-même ou donner ce que j'ai en petite monnaie, en fait.
Un peu plus tard, un homme aux cheveux poivre et sel se penche lui aussi devant le boîtier, sa carte bleue à la main.
Je n'avais pas de monnaie sur moi, donc je suis content d'avoir pu signifier mon appréciation en donnant quand même. Je ne suis pas un jeune homme, alors ce n'est pas toujours facile de m'habituer aux nouvelles technologies. Mais je me sens relativement en confiance en payant comme ça.
Isetal est la compagnie qui a rendu ce mode de paiement possible pour les buskers. La compagnie a travaillé avec Buskin London, l'organisme municipal qui chapeaute et aide les musiciens de rue. Kate Jones en est la directrice des programmes. La sécurité des données a été minutieusement étudiée, dit-elle.
Aucune information n'est conservée par EasyTool. Aucune information n'est enregistrée sur le téléphone du busker. La compagnie a effectué beaucoup de tests avant de lancer le concept. La vraie innovation, c'est l'application EasyTool qui permet les paiements répétés. Le musicien choisit un montant et n'a plus besoin de s'arrêter pour effectuer la transaction. Le public n'a pas à se demander sur quel bouton appuyer.
Charlotte parle quand même parfois aux gens qui déposent de l'argent dans sa housse de guitare, en monnaie ou par carte, mais elle n'a plus effectivement à arrêter de jouer ou à attendre la fin de la chanson en espérant que la personne qui veut payer par carte ait la patience d'attendre. Pendant près de 10 mois, pendant la période d'essai du boîtier et avant que le paiement répété ne fonctionne à la mi-mai, c'est pourtant ce qu'elle a dû faire et ça a déjà été profitable.
Je dirais que 10 à 15% de mes revenus journaliers proviennent des paiements sans contact. C'est presque ce que j'avais perdu au fur et à mesure que les gens avaient moins de monnaie sur eux. Je crois que EasyTool effectue une retenue d'environ 2% à chaque transaction, mais ça ne me dérange pas. Je gagne quand même 98% de plus que si je n'acceptais pas les cartes. Bien sûr que gagner plus d'argent, ce serait super. Mais ce que je veux surtout, c'est que chacun ait la possibilité de donner, même sans monnaie dans les poches. Nous, les buskers, on est très enthousiastes parce qu'autrement, la musique de rue risquerait de disparaître.
Buskin London ne communique pas encore le nombre de musiciens de rue qui tentent la modernité. Il faut quand même débourser une 30aine d'euros pour l'achat de la borne de paiement. Un investissement pour l'avenir, dit l'organisme municipal, même si les Londoniens vont devoir se faire à ce nouveau mode de paiement à leur rythme.
Un reportage à Londres de Marie Billon. La capitale lituanienne se rêve en capitale européenne de la banque numérique. De nombreux investisseurs britanniques ont déjà élu résidence à Vilnius dans la perspective du Brexit. En attendant, la banque centrale émet un signal fort en lançant un concours pour inventer une monnaie de collection numérique. Une façon de célébrer aussi le centenaire du pays à Vilnius, Marielle Vituro.
Avec ce projet inédit, la Banque centrale de Lituanie a voulu marquer à sa façon l'entrée dans l'ère numérique, une voie de plus en plus importante pour son développement. Des 8 équipes internationales en lice, le projet de l'équipe d'informaticiens ukrainiens a eu la préférence du jury. Ils ont su proposer une architecture alliant innovation numérique et contrôle de l'émission de monnaie et de la vente du début à la fin. D'autres concurrents ont suggéré de pouvoir choisir à la carte le design de la monnaie en y faisant figurer la célèbre soupe rose à la betterave. Les scandales liés au Bitcoin et autres crypto-monnaies n'effraient pas l'institution pour la création de sa monnaie numérique, tout d'abord car la pièce sera de collection, pas d'influence donc sur la politique monétaire. Elle aura aussi la particularité d'être liée à une version physique. Après l'avoir négocié sur une plateforme en ligne, le propriétaire pourra à tout moment l'échanger contre une pièce physique s'il souhaite la posséder en main propre. C'était d'ailleurs l'une des conditions du concours. La Lituanie prend résolument la voie du numérique pour développer son secteur financier. Une société britannique qui propose des cartes avec le choix de la monnaie de la transaction vient de s'installer à Vilnius. L'arrivée de nouveaux acteurs permet de secouer un marché plutôt tranquille et dominé par quelques gros groupes bancaires traditionnels. Vilnius souhaite devenir la nouvelle capitale européenne de la finance en ligne après le Brexit. Et depuis janvier 2017, 46 sociétés ont obtenu des licences. Avec cette monnaie numérique, la Banque de Lituanie se place donc à la pointe de l'innovation parmi les membres de la zone euro. Quant à cette future pièce, elle devrait être émise d'ici la fin de l'année. Son nom, son prix et la date de lancement restent encore à déterminer.
Livre. Le bon lobbyisme, c'est le credo de ce juriste professeur de droit à l'école de commerce HEC. Le lobbying n'est pas seulement destiné aux grands groupes ou aux secteurs qui veulent défendre leurs intérêts particuliers. Il peut aussi être un formidable vecteur de changement pour les citoyens. C'est à Bruxelles, patrie s'il en est du lobbyisme, qu'Alberto Alemano a accordé une interview à notre correspondante Laxmi Lotha.
Qu'est-ce que c'est le lobbying? Ce n'est rien d'autre qu'exprimer son avis, ses préférences par rapport à un phénomène sociétal, des façons à engager avec l'élu entre une élection et l'autre. C'est justement ce que les citoyens ne font pas, mais ce que les corporations font toujours de manière très professionnelle, très organisée, avec beaucoup de succès.
Et donc vous appelez à être lobbyiste citoyen? Est-ce qu'on peut définir le concept?
N'importe quel citoyen qui, à titre non rémunéré, s'engage dans les processus décisionnels, au niveau local, au niveau régional, national et même international européen, peut aujourd'hui utiliser les outils du lobbyiste pour exercer de la pression, pour exercer une influence sur les décideurs, et finalement porter ces instances à l'attention des décideurs, qui pourront ensuite prendre des décisions qui vont dans l'intérêt public. Aujourd'hui, lorsqu'une décision publique est adoptée, les nombres d'acteurs qui sont autour de la table ne sont pas représentatifs de tous les intérêts de la société.
C'est donc un engagement. Est-ce que vous êtes vous-même engagé?
Je me suis trouvé à me poser beaucoup de questions en tant que chercheur et enseignant. Comment je pouvais être utile au-delà de mon métier? Et je me suis trouvé au fur des années à assister un nombre important d'organisations de société civile, à mener mes propres batailles, tout en commençant avec les frais d'itinérance lorsqu'on a enregistré la première initiative citoyenne européenne qui a fait bouger effectivement la Commission européenne pour éliminer ces frais d'itinérance. Et ensuite, plein de batailles pour les droits des consommateurs au niveau européen, au niveau national. Tout récemment, on a rédigé la directive qui vise à protéger les lanceurs d'alerte en Europe. Donc c'est des batailles par rapport auxquelles les élus n'étaient pas prêts à engager un débat sociétal. Et nous, on l'a forcé, on a mis les sujets sur la table, tant au niveau européen que national. Et cela a donné lieu à un vrai débat qui a ensuite donné lieu à des procédures législatives importantes qui ont déjà donné des résultats très importants. Et tout récemment, nous avons assisté également les 4 millions de citoyens qui ont demandé à la Commission européenne de ne pas réautoriser les glyphosates.
Alors concrètement, comment faire bouger les choses dans votre livre? Il y a toute une deuxième partie très pratique.
Oui. Il y a une vraie boîte à outils du citoyen lobbyiste qui peut être mobilisé par n'importe qui. Identifier tout d'abord une bataille, ça peut être éviter que le jardin qui côtoie votre maison soit occupé par un fonds d'investissement qui va construire une grande tour. Ça peut être permettre une meilleure protection de nos droits et libertés civiles ou droits homosexuels qu'aujourd'hui continuent à être menacés. Ça peut être pour l'égalité des traitements. Après avoir identifié la bataille, et nous devons également faire nos devoirs, c'est-à-dire conduire un peu de recherche, identifier également des alliés, identifier les ennemis, faire ce qu'on appelle la cartographie des acteurs, un outil utilisé par les lobbyistes qui travaillent pour les entreprises très très souvent, et ensuite bâtir une vraie campagne, qui est une campagne de lobbying, qui nous permettra de mettre en musique les priorités de notre campagne, raconter notre histoire de manière très sexy, en choisissant un logo, en choisissant un symbole, et finalement essayer de s'appuyer sur les médias qui sont sympathiques à notre idée et qui peuvent évidemment effectuer un rôle très important pour faire rebondir les messages et l'amplifier au maximum, jusqu'à quand on aura finalement une rencontre avec les décideurs. Un citoyen qui demande, ou un journaliste d'enquête, qui demande l'accès à certains documents, peut finalement ouvrir une vraie boîte de Pandore. Au niveau de l'Union européenne, l'administration publique est très très sensible et je dirais est très disciplinée. Donc si on envoie un message électronique à un fonctionnaire de l'Union européenne, ce fonctionnaire est là 15 jours pour nous répondre. À l'absence de réponse, il y aura une procédure disciplinaire qui est entamée par les responsables du service.
Lobbying for Change, un livre d'Alberto Alemano édité chez Icon Books. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.